dans l'histoire, on commençait par regarder une carte. La Russie, c'est le plus vaste état du monde. Plus de 17 millions de kilomètres carrés, à cheval sur l'Europe et l'Asie, et traversée par 11 fuseaux horaires. L'Ukraine, elle est située à l'ouest, entre l'Europe et la Russie, et elle est beaucoup plus petite, proportionnellement. 600 000 km², on pourrait donc mettre 28 fois l'Ukraine dans la Russie. Pour autant, l'Ukraine n'est pas un petit pays, puisque le territoire ukrainien est 20 fois plus grand que celui de la Belgique. C'est l'équivalent à peu près du territoire français. Enfin, pour terminer ce petit aperçu, retenez aussi que l'Ukraine est stratégiquement très bien située. Au trait d'union entre l'Europe et la Russie, avec un accès à la mer Noire, ce qui fait que bien avant la constitution des États-nations, c'était déjà un territoire très convoité. Lieu de passage, de commerce, doté en plus de terres particulièrement fertiles. Alors, on va maintenant remonter dans l'histoire. Et il n'est pas évident de savoir où s'arrêter, au fond, dans cette histoire. Est-ce qu'il faut remonter à ce qu'on appelle la Rus de Kiev, quand entre le 9e et le 13e siècle, une vaste principauté médiévale s'étendait sur l'actuelle Ukraine, l'actuelle Biélorussie et une partie de la Russie? Ou bien est-ce qu'il faut remonter au 18e, 19e siècle, quand une large partie orientale de l'Ukraine actuelle était intégrée à l'Empire russe? Pour Anna Colin-Lebedev, ce qu'il faut surtout retenir, c'est que la Russie et l'Ukraine ont une partie d'histoire en commun.
Alors effectivement, ce qui fait le territoire de la Russie contemporaine et ce qui fait le territoire de l'Ukraine contemporaine sont des territoires contigus dont l'histoire est bien évidemment commune à bien des égards. Alors si on prend l'Ukraine contemporaine, toute l'Ukraine contemporaine n'a pas été rattachée à l'influence de Moscou dans les siècles précédents le XXe siècle, mais une bonne partie l'a été, notamment au sein de l'Empire russe où l'Ukraine était un confin, le confin occidental de l'Empire russe. Une autre partie, qui est la partie occidentale de l'Ukraine contemporaine, partage une autre histoire avec une proximité plus grande de l'Empire austro-hongrois, du Grand-Duché de Pologne-Lituanie, et pour qui Moscou, finalement, est un élément qui arrive beaucoup plus tard dans le vécu et dans l'histoire de ces territoires.
Retenons donc que le territoire actuel de l'Ukraine va connaître jusqu'au 19e siècle une histoire mouvementée, où il attire la convoitise des grands empires de la région, russes, austro-hongrois ou encore l'union de Pologne-Lituanie, car les terres ukrainiennes sont particulièrement attrayantes.
C'est ce que, par exemple, souligne l'historien américain Timothy Snyder, qui, dans ses ouvrages, insiste sur cette place en fait centrale du territoire ukrainien qui concentre à la fois des ressources, parce que c'est des terres riches et au moment où l'agriculture compte, en fait, c'est des terres fécondes, et qui est également un lieu de passage de différents pouvoirs, qui passent dans un sens ou dans l'autre sur les territoires. L'Ukraine fait partie de ces terres sur lesquelles circule cette blague qu'on entend aussi dans d'autres pays, d'ailleurs, d'Europe centrale, sur l'habitant qui a changé 4 fois de passeport et de nationalité dans sa vie sans avoir une seule fois quitté son village. Donc oui, on a effectivement cette puissance en fait qui opère sur le territoire qui est aujourd'hui celui de l'Ukraine contemporaine, et je pense que on va essentiellement parler de celui-là parce que dans la relation russo-ukrainienne, c'est sur celui-là que ça se concentre, avec à chaque fois une volonté de s'implanter, de faire terrain, et me semble-t-il aussi une difficulté dans ce contexte-là pour l'Ukraine de constituer sa propre identité, de constituer son État, et qui va se cristalliser essentiellement, effectivement, au cours du XXe siècle.
Mais donc, pour terminer cette espèce d'entrée en matière, est-ce qu'on peut dire qu'il y a quand même un peuple ukrainien, une identité ukrainienne, malgré justement ces va-et-vient sur ce territoire actuel de l'Ukraine aujourd'hui au fil de l'histoire ?
Il n'y a ni plus ni moins un peuple ukrainien et une identité ukrainienne qu'il n'y a un peuple russe et une identité russe. Parce qu'on postulerait qu'en fait sur ce territoire ça va et ça vient et donc du coup c'est compliqué, mais qu'en Russie en revanche ce serait cristallisé, ce serait oublié qu'en fait exactement la même histoire de passage de pouvoir, d'identité transformée a lieu également sur le territoire de la Russie. Les peuples se cristallisent et les nationalités, les sentiments nationaux se cristallisent au cours du 19e siècle. Auparavant on est sur une configuration impériale culturelle où l'identité se conçoit complètement différemment et on peut avoir une identité multiple en fait, beaucoup plus composite que juste l'identification à un peuple, à une langue et à une appartenance nationale. Donc l'Ukraine en fait suit ce chemin en parallèle avec tous les États d'Europe, avec ce caractère extrêmement, ce qu'on dit voilà, socialement construit de l'identité, c'est-à-dire l'identité ne préexiste pas. Elle est construite en même temps qu'un État se met en place ou en même temps que des structures para-étatiques se mettent en place.
Il faut donc noter cet élément important, pointé ici par la sociologue et politologue Anna Colin-Lebedev. L'identité ne préexiste pas, elle est socialement construite au moment où les structures d'un État vont se mettre en place. Alors, on a décidé, nous, de faire débuter notre récit historique à un moment charnière pour les Russes et pour les Ukrainiens, à savoir 1917, lors de la Révolution russe.
Товарищи, рабочая крестьянская революция, о необходимости которой все время говорили большевики, совершилась!
Avec, dès février, le renversement du tsar, et puis en octobre, l'avènement du pouvoir bolchévique, un moment de bascule pour la Russie, mais aussi pour l'Ukraine.
En 1917, le pouvoir est pris suite à une révolution par un groupe révolutionnaire qu'on a pris l'habitude d'appeler le groupe bolchévique, qui sont donc dans la lignée de la pensée communiste de Karl Marx et de Vladimir Lénine, un mouvement marxiste-léniniste, et qui non seulement va installer un régime politique, mais qui va mettre en place une organisation territoriale spécifique, qui est aussi une sorte de moment très important de cristallisation des futurs états-nations et des futures identités sur ce territoire, cet ancien territoire de l'Empire. Là où auparavant il y avait Empire et d'une certaine manière une continuité du territoire entre Moscou et ses périphéries, le pouvoir bolchévique, alors à partir de 1917, mais encore plus à partir de 1922, parce qu'en réalité c'est là que se met en place la politique de gestion du territoire de l'URSS, va délimiter des républiques socialistes soviétiques. Et les républiques socialistes soviétiques vont être dotées d'une langue, d'une nationalité titulaire et d'une sorte d'identité au sein de ce qui est pensé comme une, dans un premier temps comme une fédération ou une union. Il faut bien se dire qu'entre 1917 et 1922, il ne se passe pas rien sur le territoire ukrainien. Il y a à ce moment-là, suite à cette révolution, une déclaration d'indépendance de l'Ukraine. Et les Ukrainiens, en fait, vont dater leur identité nationale et l'histoire de leur État précisément à ce moment-là. On a un territoire qui est assez proche en fait des contours de l'Ukraine contemporaine, qui va déclarer son indépendance, en tout cas des mouvements qui vont déclarer cette indépendance de l'État ukrainien. Il ne survivra pas très longtemps et en réalité il sera avalé dans le cadre de la révolution bolchévique et intégré dans le territoire de l'URSS.
Mais donc, là c'est très important évidemment déjà ce moment-là, ça veut dire qu'en 1918, hein, si je ne m'abuse, on a ce premier moment où là il y a une indépendance qui est proclamée, vous l'avez dit, elle ne va pas durer très longtemps, de la nation ukrainienne. Donc quand les Ukrainiens disent aujourd'hui notre indépendance c'est pas 1991, ça, c'est beaucoup plus vieux que ça, c'est à ça qu'ils font référence.
Oui, ils font référence à ce moment-là, mais c'est aussi ce moment-là qui permet par exemple au Kremlin de dire que l'Ukraine est une création de l'Union soviétique, parce que quelque part, c'est l'histoire de la création de l'URSS qui permet aussi à l'identité ukrainienne de se cristalliser. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y avait pas d'identité ukrainienne auparavant, bien évidemment, ou de langue ukrainienne auparavant. D'ailleurs, dans cette histoire impériale, en fait, l'Ukraine est bien identifiée comme un territoire avec une population à part, une population qui a une spécificité ethnique, et l'un des signes, par exemple, peut-être les plus marquants de cette existence, par exemple, de l'identité ukrainienne, c'est l'interdiction de la langue. La langue ukrainienne est interdite à l'apprentissage au sein de l'Empire russe et les publications en ukrainien sont interdites également. Donc si on a besoin d'interdire cette langue, c'est que quelque part, elle est déjà identifiée par le pouvoir impérial. Mais c'est à partir de ces années 1920 qu'on va voir émerger, en fait, dans un mouvement assez paradoxal, à la fois une Ukraine complètement inféodée à Moscou, parce que le pouvoir ukrainien est d'après tout juste un pouvoir régional au sein de l'Union des républiques socialistes soviétiques, et en même temps un système politique qui permet la consolidation à la fois de la langue ukrainienne et qui permet la consolidation aussi de l'identification à l'Ukraine. Parce que en URSS, le pouvoir soviétique dans ces années 1920 va considérer que afin que l'idéologie communiste et l'idéologie soviétique s'implantent dans ces territoires qui sont un petit peu éloignés de Moscou, il faut qu'elles soient transmises par des élites locales dans la langue locale. Et donc il va y avoir une politique à la fois de valorisation des langues régionales qui vont être enseignées à l'école, qui vont être officiellement déclarées langues de communication officielle. Pendant tout un temps, par exemple, les documents vont être en bilingue, ukrainien et russe. Et puis, en fait, on va valoriser également des élites ethniquement ukrainiennes dont on considérera qu'elles sont le plus à même, en fait, à porter dans les masses des paysans, par exemple, l'idéologie et l'idéologie communiste. Ce qui est vraiment complètement paradoxal dans cette histoire soviétique, c'est qu'on a à la fois ce mouvement de création des nationalités, voire d'ingénierie des nationalités, parce que dans le cas de l'Ukraine, on va prendre une langue qui existe et une identité qui existe, mais dans d'autres territoires, par exemple en Asie centrale, on va complètement inventer en fait les langues régionales et inventer des identités qui ne préexistaient pas à l'URSS. Mais donc à la fois, on a ce mouvement de consolidation des futures identités nationales, mais en tout cas des identités des grands groupes ethniques qui sont permises par l'URSS, et en même temps une oppression qui va s'exercer de plus en plus fortement. Alors non pas dans les années 1920, mais tout à la fin des années 1920 et au début des années 1930.
Arrêtons-nous un instant là-dessus, parce que c'est essentiel et que ça permet d'y voir plus clair dans des débats qui reviennent sans cesse aujourd'hui encore sur l'Ukraine. Oui, nous dit Anna Colin-Lebedev, il y a bien dès le début du XXe siècle, et au moment où une bonne part du territoire ukrainien actuel fait partie de l'Empire russe, il y a bien une identité ukrainienne, une langue et une volonté de former un État ukrainien en tant que tel, en témoigne cette indépendance déclarée en 1918 mais qui sera de courte durée. Mais oui aussi, il faut considérer que l'URSS a contribué à façonner et à renforcer cette identité ukrainienne, en mettant en place les républiques socialistes soviétiques, en promouvant la langue ukrainienne, qui sous l'Empire russe était pourtant réprimée, tout cela dans un dessein surtout idéologique, puisqu'il s'agissait de convertir la population au communisme. Ça, c'était donc pour les années 20. Mais venons-en maintenant à un moment particulièrement tragique de l'histoire ukrainienne, ce que l'on va appeler l'Holodomor. On est à la fin des années 20, début des années 30. En URSS, c'est Staline qui a succédé à Lénine, et le régime qu'il installe, dictatorial, totalitaire, va entraîner la mort de millions de personnes, y compris et particulièrement sur le territoire ukrainien.
Alors, Holodomor est le terme en ukrainien. On peut le traduire par grande famine, et souvent on parle de la grande famine ukrainienne. Au niveau historique, ça s'inscrit dans un moment très particulier de l'histoire de l'URSS, qui est l'histoire de la collectivisation. L'agriculture est absolument centrale pour l'Union soviétique qui démarre, parce que l'exportation de produits agricoles est une des sources principales du revenu du nouvel État soviétique. Or, en fait, les paysans sont considérés par le pouvoir soviétique comme la classe sociale, a priori, la plus hostile, la plus arriérée, de leur point de vue, la plus hostile au nouvel État socialiste, dans lequel la propriété de la terre, en fait, est au peuple, mais en réalité à l'État, où il faut, en fait, remplacer des fermes individuelles par des grandes entreprises étatiques pour qu'elles soient plus efficaces, et où il faut exproprier, pour ce faire, les paysans de leurs fermes, les forcer à mettre en commun le bétail, les terres, les ressources humaines, etc. Ça passera sur tout le territoire de l'URSS par la politique de répression à l'égard des paysans, où il va y avoir des exécutions, des emprisonnements, des déportations pour une grande partie d'une paysannerie aisée. Donc ce n'est pas exclusif à l'Ukraine. Mais en Ukraine, en fait, il se passera quelque chose de très particulier. Alors déjà, parce que la collectivisation, il sera beaucoup plus violente qu'ailleurs, dans la mesure où on est sur des terres fertiles. Et donc on a un grand nombre de paysans qui ont quelque chose à quoi renoncer. Et qui rechigne à tout donner au pouvoir soviétique. Donc ça c'est le premier élément. Et ce qu'ils produisent, en fait, voilà, on a parlé de l'Ukraine encore aujourd'hui comme le grenier à blé de l'Europe, mais pour l'Union soviétique, elle est véritable probablement cela. Et donc, dans un premier temps, le pouvoir soviétique va mettre en place une politique de collectivisation particulièrement répressive en Ukraine, mais qui ensuite va devenir absolument exceptionnelle, au sens où le pouvoir soviétique va créer, et on a une preuve historique de cela, une famine artificielle en Ukraine, pour forcer les paysans à plier. Cette famine artificielle, ça consistera à non seulement confisquer toutes les récoltes, tout le bétail, mais aussi toutes les semences aux paysans, mais surtout à les enfermer dans leur village, gardé par l'armée rouge, en interdisant d'aller chercher de la nourriture ailleurs. Et donc, en fait, cette famine va être extrêmement violente et mortelle. On estime aujourd'hui que les chiffres varient énormément, mais on peut se dire raisonnablement que 4 millions de personnes mortes dans cette famine, dans une année où les récoltes sont parfaites et où la météo n'a rien de particulier. C'est le prix que l'Ukraine a payé avec des histoires familiales qui sont aujourd'hui encore dans les mémoires, des histoires de cannibalisme, par exemple dans les villages dont les habitants ne pouvaient pas sortir. Alors, c'est là qu'on a une divergence de lecture entre la Russie et l'Ukraine sur cet événement. Du côté russe, les historiens honnêtes, je ne parle pas des historiens malhonnêtes, mais des historiens honnêtes existent, vont dire, en fait, c'est un épisode, c'est une question de degré. C'est-à-dire que la répression a eu lieu un peu partout sur le territoire de l'URSS. Ça a été particulièrement violent, mais on est dans la même histoire du pouvoir répressif stalinien des années 1930. On parle des années 1931-1933 sur lesquelles se cristallise cette famine. Les Ukrainiens, eux, vont dire non, en réalité, en Ukraine, on allait au-delà de ça. Et ce qui a été pratiqué par l'Union soviétique sur le territoire ukrainien était un génocide du peuple ukrainien. Et pour soutenir cet argument, ils vont ajouter un élément supplémentaire à cette histoire de la famine. C'est qu'en plus de la persécution et de l'enfermement des paysans dans les campagnes, au même temps avait lieu une politique répressive particulièrement violente en ville, dans les villes ukrainiennes, contre les élites politiques, les élites intellectuelles et les élites artistiques. Les Ukrainiens vont parler de renaissance fusillée, pour parler de toute une génération en fait décimée. Et selon eux, en fait, cette combinaison d'une répression extrêmement forte dans les villes, qui n'a pas lieu ailleurs sur le territoire ukrainien à la même échelle, et d'une répression, d'une exécution de masse par la faim dans les campagnes, la combinaison des deux prouve l'intention génocidaire de Moscou à l'égard de l'Ukraine, qu'il s'agissait non seulement de faire plier les paysans, faire plier une classe sociale, mais en fait de dominer et d'écraser toute résistance et toute identité d'un peuple qui serait le peuple ukrainien.
Ce moment de l'Holodomor, considéré officiellement par les institutions ukrainiennes comme un génocide, est un jalon très important du récit national en Ukraine. Un moment de cristallisation de la mémoire historique des Ukrainiens.
C'est non seulement en fait très reconnu officiellement et mis en avant par le pouvoir politique, mais c'est aussi extrêmement approprié par la population elle-même. Au mois de novembre a lieu le jour de commémoration des victimes de la Grande Famine. Et extrêmement nombreux sont les Ukrainiens qui vont mettre un cierge à leur fenêtre pour marquer ce moment. Les mémoires des grands-parents sont encore là. Les Ukrainiens avec qui je discute me racontent les souvenirs de leur grand-mère ou de leur grand-père survivant de cela. Mais je dirais la question, s'agit-il d'un génocide ou pas, était moins centrale quelque part avant 2014 pour les Ukrainiens. C'est-à-dire que c'était un moment tragique, mais au fond, cette question génocidaire, ça relevait d'un débat d'historien, ça ne concernait pas les Ukrainiens ordinaires. Ce qui se passe à partir de 2014 et encore plus à partir de 2022, c'est que les Ukrainiens vont de plus en plus inscrire en fait ce qui leur arrive en 2014 et en 2022, l'agression de la Russie à leur égard, dans une histoire tellement longue qu'elle va remonter à cette grande famine. Et pour certains, elle va remonter jusqu'à l'Empire russe en disant qu'il y a une continuité, qu'en fait, la volonté de Moscou d'effacer tout ce qui fait la spécificité de l'Ukraine ne serait pas propre à une intention de Vladimir Poutine, ne serait pas propre au fonctionnement du régime russe contemporain, mais serait une sorte de constante de la politique de Moscou à l'égard de Kiev, quel que soit le pouvoir en place à Moscou. Et donc en cela, vous voyez, l'interprétation historique a été extrêmement radicalisée par la guerre et l'histoire devient centrale.
Et c'est pour cela justement qu'on tenait à vous proposer cette série. Parce que aujourd'hui, Des deux côtés et dans le débat sur cette guerre, aussi en Europe, l'histoire est sans cesse convoquée, appropriée. D'aucuns choisissent certains événements en omettant sciemment d'autres, réécrivent parfois l'histoire. Et Vladimir Poutine lui-même nourrit son discours de référence historique en choisissant certains épisodes et en construisant une lecture de l'histoire qui arrange évidemment son récit pour justifier l'invasion de l'Ukraine. Alors, revenons aux faits et à la suite de cette histoire, avec un autre épisode historique qui est lui aussi abondamment convoqué dans les discours politiques actuels, à savoir ce qui va se passer durant la Seconde Guerre mondiale. Et on va commencer avec Anna Colin-Lebedev par un petit rappel important. Quand on parle de l'Ukraine en tant que république socialiste soviétique jusqu'à la fin des années 30, on parle d'un territoire en réalité plus réduit que celui de l'Ukraine actuelle.
L'Ukraine qui rejoint l'Union soviétique dans les années 1920 n'est pas l'Ukraine dans ses frontières contemporaines. Vous avez toute la partie qui était dans l'Empire russe qui est l'Ukraine soviétique, mais vous avez en fait tout ce qui relève au moment, au début de la Seconde Guerre mondiale, de l'État polonais, qui ne fait pas partie de l'URSS. Et il s'agit des provinces de Bukovine et de Galicie dans l'Ukraine contemporaine, c'est-à-dire cette partie dans l'extrême ouest du pays, qui ne sont donc pas soviétiques. À la fin des années 1930, qui sont des territoires polonais, dans lesquels d'ailleurs les Ukrainiens sont une minorité, et sont une minorité plutôt opprimée par l'État polonais. Il y a des conflits extrêmement fréquents en fait entre le gouvernement polonais et cette minorité ukrainienne. Un mouvement nationaliste ukrainien qui s'organise dans ces territoires pour lutter contre l'État polonais qui est jugé